Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Bonjour, moi c'est Christian Clos, je suis explorateur, chercheur. Aujourd'hui, on va parler de toutes les grandes théories qui nous occupent, la Terre creuse, les pyramides, bref, tous ces mythes qui nous animent.
Légende podcast. Eh ben voilà, bienvenue Christian Clos. Merci. On est là à l'occasion de la sortie de Godzilla Kong, le nouvel empire. Vous l'avez vu, il arrive mercredi au cinéma, il parle notamment de la Terre creuse. Alors la Terre creuse, c'est une théorie comme quoi le centre de la Terre est vide et creux, et il y a un monde à l'intérieur. On va aussi parler d'autres théories, comme tu le disais juste avant, les pyramides, mais il y a aussi l'île de Pâques. En fait, il y en a plein. Alors, pour bosser ça, il y a Sébastien qui m'est venu en aide, parce que tout seul, sinon, ça va être beaucoup d'informations. Donc, merci d'avoir préparé.
Avec plaisir, Guillaume, et bonjour, Christian.
Salut, Sébastien.
En vrai, c'est des sujets, on dirait vraiment un début d'émission littéraire.
Est-ce que c'est pas ça?
Non, et c'est hyper intéressant comme sujet. En vrai, moi, j'ai déjà parlé en soirée de la Terre creuse, j'ai déjà parlé de l'île de Pâques, j'ai déjà parlé des pyramides, j'ai déjà parlé du triangle des Bermudes, etc. etc. Et toi, juste, tu es explorateur, donc tu as beaucoup exploré, tu as fait beaucoup de missions, tu es chercheur aussi en adaptation humaine. Tu as fait même des missions, tu vas nous raconter de plusieurs dizaines de jours dans des grottes. C'est aussi pour ça que tu es là, c'est vraiment le sujet...
C'était ma Terre creuse.
C'était ta Terre creuse, toi. C'est un peu une Terre creuse,
finalement. C'est un peu une Terre creuse, ouais.
Comment l'humain peut arriver à vivre complètement dans une grotte? Toi, t'es parti, je crois, une quarantaine de jours, c'est ça?
Ouais, on était une quinzaine pendant 40 jours dans une grotte, sans accès à la lumière du soleil.
Sans accès à la lumière du soleil.
Non, sans montre, sans rien.
Alors, on va en parler, juste que vous sachiez, donc, il arrive mercredi, dans Godzilla Kong, le nouvel empire, c'est un vrai film d'aventure et d'exploration. On part à la découverte de la Terre intérieure, un peu comme dans les films Voyage au centre de la Terre ou Jumanji. Alors, dans le film, Kong va partir à la recherche de ses semblables, il va réussir d'ailleurs à les retrouver, il y en a des mignons, comme Mini Kong, et des beaucoup moins, vous allez voir, comme Scar King le méchant. Et grâce à cette découverte, on apprend enfin l'origine des titans, donc de Kong et de Godzilla, et l'origine de leur monde, la Terre intérieure, et comment ils cohabitent avec le nôtre. Et pour tenter de sauver cet équilibre, Kong va devoir être aidé par Godzilla pour tenter de vaincre Scar King, qui est le méchant. On vous met un lien, je rappelle, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez prendre vos places directement pour regarder dans le cinéma à côté de chez vous, s'il est dispo. Juste pour parler justement de la Terre creuse et tout ça, toi, t'y allais pourquoi au centre de la Terre? Pourquoi t'es allé 40 jours t'enfermer dans une cave?
Attends, dis pas aujourd'hui que c'est dans la Terre creuse, sinon les gens vont croire que j'ai vraiment découvert la Terre creuse. Là, je suis mal après, je vais devoir aller me justifier partout, société d'explorateurs. Non, moi, j'y suis allé vraiment pour comprendre comment le cerveau humain, comment une société humaine pouvait se réadapter à des nouvelles conditions de vie. On plonge soudainement dans un univers qu'on ne connaît pas, qui nous est totalement abscon. On n'a plus de montre, donc tout ce qui définit une société qui est le temps a disparu, on n'a plus de soleil. Et on essaie vraiment de comprendre comment le cerveau recrée une image du temps et comment une société arrive à se réadapter dans une condition qui est totalement nouvelle.
En vrai, on peut vivre sans soleil?
Alors, a priori, je ne suis pas mort. Donc, c'est que
j'ai vécu. Non, mais il y a les 40 jours, est-ce qu'on peut passer une vie? Est-ce qu'un être humain, il peut naître dans une cave?
Sujet assez extraordinaire, parce que par exemple, dans la grotte, il y avait des gens qui étaient implémentés en vitamine D, donc ils prenaient des pilules. Moi, j'en ai pas pris, d'autres on n'a pas pris.
On
pour
voir la
différence. Grosse différence à la fin. Alors, c'est, encore une fois, c'est que 40 jours, donc il ne faut pas non plus tirer toutes les conclusions. Mais la question se pose, et si quelqu'un n'avait jamais connu la lumière du soleil, et s'il ne savait même pas qu'il existait, peut-être qu'il créerait sa vie, cette personne, dans ces conditions-là. Alors je pense quand même qu'il y aurait des manques, notamment cognitifs, parce qu'on a besoin de cet espace, de l'ouverture pour que notre cerveau développe son imaginaire.
Et qu'est-ce que vous mangez pendant 40 jours?
En fait, on avait installé dans la grotte une sorte de supermarché avec 60 jours de nourriture pour qu'on ait beaucoup de nourriture. Et tout le monde pouvait aller chercher comme il voulait ses carottes, ses boîtes de conserve, ses pâtes, son riz. Et on avait installé une gazinière dans la grotte. Donc tout le monde pouvait se faire à manger comme il voulait.
Ah oui, c'est une vraie cuisine.
C'était une vraie cuisine. On a installé la vie dans la grotte. On n'a pas voulu faire un truc de survie où on est mal pendant 40 jours. On s'est installé avec une base de vie.
Leaking size.
Ouais, exactement, ouais. Alors c'était marrant, tu vois, on a porté des gazinières, tout ça, pour. C'était quand même à 1000 mètres de l'entrée, donc tout ça, donc il fallait.
T'avais un kilomètre pour arriver là-bas.
Voilà,
ah oui, c'était vraiment dans le noir.
Ouais, on était vraiment au fond, là. Ouais, c'était sympa. Donc on n'avait vraiment aucune interaction avec l'extérieur.
Il y avait des gens, quand même, qui avaient un téléphone à l'extérieur pour vous appeler en cas de problème, genre une ligne au cas où, au bout de 40 jours?
Non. On n'avait pas de contact avec l'extérieur. Il avait été décidé que, entre guillemets, quoi qu'il arrive à l'extérieur, eh bien, on ne serait pas averti à l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu plein de théories du complot qui se sont développées, genre, est-ce que quand on va sortir, le monde aura explosé, voilà, forcément.
Pas du tout, il y a des questions. C'est pour qui brûlait son chien.
Ouais, c'était un peu ça, ouais.
Dans 40 jours, il se passe beaucoup de choses en plus aujourd'hui, en général.
40 jours.
C'était pendant la Covid en plus. Donc, il y avait quand même plein de choses. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Est-ce que l'épidémie est devenue beaucoup plus large? Et puis tout d'un coup, on va sortir, il y aura, tu sais, genre un film d'aventure, quoi. Plus rien n'existe. Voilà.
Alors, dans le film, il parle justement de la Terre creuse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est vraiment que le mythe, Seb? Je sais que tu as regardé un peu. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça existe? Est-ce que ça existe vraiment? Tout ce qu'on en sait.
Alors, ça existe vraiment, ça, je peux pas te le prouver. Et je pense que même les scientifiques, même si aujourd'hui, on sait par...
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
L'envoi d'ondes, que d'un côté à l'autre, il y a un noyau central de la Terre et que toutes les planètes de Terre comme la nôtre sont comme ça. Par contre, la théorie commence au XVIIe siècle. C'est Edmund Halley qui a fait la théorie de la comète de Halley. Cette comète qui revient tous les 76 ans, qu'on voit passer.
Qui a vu, qui a découvert. Là.
Exactement. Donc c'est un scientifique qui a parlé de ça pour la première fois. Et il considérait que la croûte sur laquelle on était, à l'intérieur de la Terre, il y avait trois noyaux comme celui-là. Donc en fait, il y avait trois types de civilisations à l'intérieur de la Terre. Une théorie qu'il a avancée, on n'a jamais pu le prouver, mais aujourd'hui on sait que plus on creuse, plus il fait chaud, mais on en parlera après, et que sous Terre, il n'y a pas grand-chose.
Alors attends, c'est... non mais on va pas en parler après, on va en parler maintenant, on est là pour ça. C'est
pas... on est là pour ça.
Comment ils savent qu'il y a un noyau?
C'est en général, les scientifiques déjà estiment en envoi d'ondes qu'ils récupèrent de l'autre côté de la Terre. En fait, c'est un envoi-récupération d'ondes. Ils savent que, après, voilà, c'est des scientifiques. Moi, je ne peux pas t'apporter la connaissance scientifique, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sûr que la Terre est composée de roches. Il y a différentes couches dans la Terre. Il y a la croûte terrestre sur laquelle on est.
Comment on sait?
Comment on sait?
Non, mais on y est déjà allé. Est-ce qu'il y a une entrée connue qui va très très bas? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un trou sur Terre? Alors, dans le film, oui.
Oui.
Mais est-ce que sur Terre, on est déjà allé? Est-ce qu'il y a un trou au pôle? J'en sais rien, quelque part.
Alors, on parlera des pôles après. C'est une des théories, en tout cas, comme quoi ça serait une entrée, soit de pôle Nord, soit pôle Sud, qui est des entrées pour justement la Hollow Earth, ou la Terre creuse. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, nous, en ayant creusé, c'est que en Russie, il y a eu un projet qui s'appelait le SG3, qui a commencé dans les années 70.
Qui est un vrai projet.
C'est un vrai projet. Les Russes ont décidé de creuser dans la Terre pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Vraiment le plus simple possible.
Tu savais ça? Tu connais, Christian?
Oui, bien sûr.
Ça, c'est okay, donc c'est un truc qui est connu.
C'est connu.
Il y a des images?
Il y a des images. Il y a des photos de l'endroit. Il y a des photos. C'est une petite valve, en fait. C'est pas très large.
Ça reste russe, donc...
ça reste flou.
Ça reste flou.
Mais
l'endroit existe.
Ils n'ont pas documenté, mais tu vois des photos. C'était dans le nord de la Russie, quasiment proche de la Finlande, en fait. Donc c'est dans la partie nord de la Russie.
Ils ont percé?
Ils ont percé. Pas très large. T'as les photos de la valve, en fait, de l'entrée qu'ils ont creusée. C'est dans une tour un peu aménagée, comme si tu dirais une tour de chantier aujourd'hui, qui protège un travail qu'ils sont en train de faire. Et ça descend à 12 km et des brouettes.
12 km. C'est déjà beaucoup, hein?
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, et en vrai, c'est rien.
C'est rien, parce que le noyau de la Terre est à 6000 km. Le rayon de la Terre, c'est 6000 km, 6300. Donc, en fait, 12 km, c'est rien. Et déjà, ils ont été déçus de leur découverte, puisque en creusant, ils se sont rendus compte qu'à 12 km, ça a duré 22 ans pour y arriver jusqu'en
haut.
Voilà. Donc, ça a pris du temps. Et ils se sont rendus compte qu'il faisait beaucoup plus chaud que ce qu'ils n'imaginaient. Ils pensaient que ça allait faire à peu près 100 degrés à 12 km. En fait, pas du tout. Ça faisait plus de 180 degrés déjà.
104? Ah ouais, donc ça fond.
Exactement. Le matériel fond. Et il y a des pièces qui commencent à tomber du matériel. Donc, ils ont arrêté de creuser pour cette raison-là, en fait. Ils n'ont pas trouvé de solution pour continuer à creuser. Ils ont fermé la valve en 2005.
Ils ont arrêté le projet.
Ils ont arrêté le projet.
T'as vu des images de ça?
Alors, il y a des images qui circulent sur Internet. Il y a quelques bouts de films qui existent. Ça reste quand même peu connu. Alors, un autre problème qu'ils ont eu, c'est non seulement qu'il faisait chaud, mais qu'en plus, avec la différence de dureté de la roche, les différents systèmes de creusant, ils se dévient légèrement. Donc, en fait, on n'arrive pas à faire un truc bien droit. Ce qui est très compliqué.
Ah, wow.
Et donc, au lieu de piquer droit et de vraiment descendre, bah, tu descends très doucement et en biais, quoi.
Et ça, c'est l'endroit où on allait le plus bas. Alors, tu es 12 km, tu penses à un village à côté de chez vous, vous pensez à une ville, c'est pas si loin que ça, 12 km.
Et puis même la fosse des Mariannes, la fosse qu'on connaît aujourd'hui qui étant la plus profonde du monde, dans l'eau, dans le Pacifique. Et la fosse des Mariannes est à 12 km aussi. Donc c'est à peu près la même équivalence, sauf que ça a été creusé dans la terre d'un côté en Russie,
et la
après c'est naturel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres zones, même plus profondes que la fosse des Mariannes? Pour l'instant, il semblerait que tout était cartographié. Je pense que tu peux peut-être confirmer, mais...
Ouais, sur l'océan, on ne connaît pas tout, mais sur la surface océanique, on a quand même une belle cartographie.
Exactement.
Et comment c'est, justement, dans la théorie de Halley, le scientifique, il parlait du coup, c'est lui qui a découvert la comète, donc il expliquait, il pensait qu'il y avait que la Terre était creuse et qu'il y avait une vie à l'intérieur. Il pensait qu'il y avait quoi?
Eh bien, il pensait qu'il y avait une vie. Et c'est ce qui a été la théorie, même à plusieurs reprises, 18e siècle, 19e siècle, ça a toujours été un peu le même process, qu'à l'intérieur d'une Terre creuse, il y a une civilisation, quelque chose d'un peu préhistorique, un peu l'image qu'on a, nous, de la préhistoire dans les bouquins. Tout est très grand, tout est gigantesque, il y a une forêt vierge, il n'y a pas d'humains, c'est très grand, c'est très vaste. C'est un peu ce qui revient. Et les populations, dans certaines théories, on en parlera plus tard, ce serait que c'est des populations un peu sages, un peu comme dans l'Atlantide, dans l'imaginaire de gens, un peu comme des Grecs. En fait, l'Atlantide, c'est dérivé de la Grèce antique, donc des gens qui seraient très cultivés, très sages, donc pas de guerre, pas de conflit. On en parlera plus tard, ça, il y a pas mal de théories autour de ça.
Et alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est, là, il y a un schéma qui apparaît à l'image, on voit la Terre qui est découpée.
Exactement.
Donc la croûte au-dessus, tu veux expliquer ce que tu sais ?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la croûte terrestre, donc sur laquelle on vit, nous on vit sur la surface terrestre, mais la croûte fait 30 km. Donc c'est quasiment la même composition de Terre sur les 30 km. Plus ou moins de chaleur, plus on se rapproche du centre. Ensuite, à partir de là, il y a du manteau. Le manteau, c'est de la roche en fusion. C'est d'ailleurs là...
C'est du magma, quoi.
C'est du magma. C'est ce qui va déposer dans les poches de magma sous les volcans. C'est un lien direct avec le manteau. Pourquoi les volcans explosent ? C'est que sous les volcans, il y a des poches de magma en fusion qui sont reliées directement au manteau qui se trouve à 3000 km, qui se trouve en dessous quasiment à 3000 km. Et ça monte, ça monte, ça monte, et la montagne bloque la circulation du gaz, ça, un peu comme une cocotte minute, tu vois, que tu n'ouvrirais pas, ça finit par exploser, et donc c'est du magma.
Hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur du feu.
On est sur
c'est
du
un
feu.
Un peu flippant quand même.
Oui, à plusieurs milliers de kilomètres, mais on est sur du feu.
Ouais, mais quand même. Et donc, non mais je trouve ça, le mec qui commence à faire de l'eczéma et tout encore plus qu'aujourd'hui.
C'est très avant l'émission, voilà. Mais ce manteau-là, il fait 3000 km d'épaisseur.
Et en dessous, c'est 3000
km. Et en dessous, t'as un noyau. Alors le noyau, il est en deux parties. T'as une partie qui est un noyau liquide, c'est du métal. Alors là, encore, c'est
comment on le sait ?
Comment on le sait ? Je pense que ça a dû être testé par du renvoi, par tiens, telle onde répond de telle manière. Et à l'intérieur, sous ce noyau-là liquide, de métal liquide, il y a un noyau en métal dur, qui est apparemment le propre à toutes les planètes telluriques. Les planètes telluriques, c'est comme notre planète Terre. Telos, ça veut dire c'est la Terre, et donc toutes les planètes un peu comme la nôtre, que ce soit, attends, je vais t'en citer une, Mercure par exemple, ça en est une, tellurique, c'est un peu le même système à chaque fois.
D'accord. Donc il y aurait un noyau en fer à l'intérieur.
Exactement, le centre de la Terre serait un noyau en fer.
Donc la Terre maintenant serait pas creuse.
La Terre serait pas creuse, d'après les scientifiques. D'après est-ce qu'on va les écouter ? Je ne sais pas.
Moi je veux bien qu'on les écoute quand même. Hein.
Dans le film justement, Godzilla Kong, le Nouvel Empire, ils disent que l'entrée de la Terre creuse se ferait au niveau des pôles, se ferait dans des grottes ou même des pyramides, on va en parler dans deux minutes. Juste, t'as déjà visité les pôles ? T'as eu l'occasion d'aller faire des explorations là-bas ou pas ?
Alors j'ai déjà été pas mal au nord, effectivement, vers les pôles nord. Alors j'ai pas vu d'entrée, mais je vais chercher, hein, maintenant que je sais que... voilà, je vais chercher.
Vas-y.
Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'on invente un trou au pôle, alors qu'en réalité, les volcans sont les vraies entrées pour aller dans le centre de la Terre. Parce que c'est là qu'on rejoint le magma, en fait. Donc on devrait plutôt imaginer qu'on rentre... Ah bon, ça ferait chaud pour Godzilla, quand même. Hein.
Ouais. Faudrait limite faire une boule avec des capteurs, mais ça brûlerait instantanément, c'est impossible.
Bah, déjà,
ça a été essayé.
Ah, c'est vrai ?
Ça a été essayé.
Mettre une boule dans un...
Ça a été essayé de descendre dans les volcans, c'est essayé de faire descendre des caméras dans les volcans. Il y a plein de choses qui ont été essayées, mais évidemment, ça brûle.
La question qui se pose aussi, c'est pourquoi aujourd'hui on va explorer d'autres planètes et qu'on n'arrive pas à aller plus de 12 km en sous-sol de notre propre Terre ? C'est des questions sur les forums. Je suis allé sur tous les forums justement pour voir...
Pourquoi on va si loin et pas en dessous ?
Ouais. Ok, on va sur telle planète, on va aller sur Mars, on va aller là, mais pourquoi on ne creuse pas plus de 10 km ? Enfin, 12.
Ça, c'est facile à expliquer. Tu baisses la tête et t'as rien, tu lèves la tête et
t'as tout.
Dans le film, en 2021, Godzilla Kong, les humains ils arrivent à accéder à la Terre creuse en passant par un portail après avoir creusé dans la banquise. Voilà, vous voyez des images. Donc ils disent que ça serait aussi au cœur de l'Himalaya ou dans des montagnes où tu peux rentrer, etc., qu'il y a des trous. Et c'est en 1818, alors si tu veux expliquer...
Oui, bah, John Cleve Sims, pardon, qui est un ancien militaire, qui était conférencier pour l'armée, lui, il s'est dit qu'il allait explorer certaines parties du monde. Il était persuadé que par les pôles, donc pôle nord et pôle sud, ce serait comme deux pièces qui se joindraient et qu'il y aurait une petite faille au nord et au sud dans lesquelles on pourrait accéder au centre de la Terre. Donc lui, persuadé d'avoir fait ça, il a commencé à tenter des explorations. Évidemment, il n'y a pas eu de preuve de ça, ni de photos, ni de rien du tout, et ça reste une théorie.
Il y a une photo sur Google Earth, regardez. Ça a fait un peu le buzz sur Internet. Ils disaient que ça pouvait être l'entrée d'une grotte géante. C'est en Antarctique, sur l'île du Roi George. Le trou ferait 22 mètres de haut, donc un gros trou hein, déjà. On voit comme des escaliers en dessous, etc. Tu as déjà vu cette photo ? Est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là ? Vous voyez la photo en grand à l'écran, mais c'est comme ça que tu l'as sur l'affiche ?
Ça fait partie de ces images. La Terre est remplie de ces endroits très mystérieux où, quand on les regarde de loin, on peut imaginer plein de choses. Quand on va concrètement sur place, on constate vite que ça ne reste qu'un trou et une grotte. En fait, ça ne va pas bien loin. Mais forcément, ça ne peut que alimenter nos imaginaires. Et c'est ça qui est... Quelque part, on en a besoin aussi.
On va parler des autres légendes. Dans deux secondes, juste pour finir, sur tes 40 jours sous Terre, tu croises des animaux, tu vois quoi comme vie quand tu es dans une grotte pendant 40 jours dans une mission comme tu as fait ?
Il y a de la vie dans les grottes, passablement d'ailleurs. Il y a plein de petits insectes, hein, des nyctalopes, des insectes qui sont aveugles, mais qui
vivent la nuit.
Qui vivent la nuit. Bon, quand on n'est pas trop profond sous terre, il y a des chauves-souris encore qui vivent, donc on a des chauves-souris, on a des petits rongeurs qui peuvent exister. Donc il y a toute une vie qui s'est développée, qui est assez surprenante. Et c'est vrai qu'on n'a pas cet imaginaire. Quand on rentre dans une grotte et qu'on s'y enfonce, on se dit c'est terminé, on va voir disparaître la vie. Et non. Et c'est comme dans les grands abîmes marines. Moi, c'est ce qui me fascine. Et d'ailleurs, ils ont trouvé de la vie dans leur creusement très profondément, à quasiment 11 km, ils ont encore trouvé des bactéries, des protozoaires, des choses. Donc en fait, la vie, elle s'est vraiment installée quasiment partout. Et ça, c'est phénoménal à observer.
Est-ce que les relations entre les humains, elles se détériorent au bout d'un moment avec l'énervement, le stress, tu vois, quand t'es dans le noir pendant 40 jours?
Elle peut se détériorer. La réalité, c'est que c'est plutôt l'inverse qui se passe. La plupart du temps, quand on est dans des conditions vraiment complexes et nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va comprendre que seul, il ne peut pas y survivre. Qui s'en sortira pas. Donc en fait, on se rend compte qu'on a besoin des autres. Et naturellement, même si on n'apprécie pas l'autre, même si on n'est pas super pote, on va devoir générer de la coopération, parce que c'est comme ça qu'on arrive à refaire société et à vivre ensemble. On est des animaux sociaux, les humains, et cette sociabilité, quand on est très peu, quand on est une quinzaine, une vingtaine, on la recrée très naturellement.
T'as eu des mecs qui ont paniqué ?
Non. Je dirais même que j'ai été très surpris en bien, parce que quand on monte une expérience comme ça, et qu'on sait qu'avant nous, il y a 19 personnes qui l'ont fait en solitaire, dont beaucoup qui sont sortis en dépression, qui ont eu des grandes difficultés par la suite, quand on monte un truc comme ça, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je mets des gens dans une situation impossible? Et on avait même des personnes qui étaient claustrophobes, qui avaient peur du noir, qui sont venues avec nous dans la grotte. Donc on se dit, waouh, est-ce que je suis... Au moment où on ferme la grille, là, à clé, on se dit, est-ce que je suis pas en train de faire une petite connerie quand même, tu vois? Et en fait, au bout de quelques jours, on se rend compte, ben non, ça va pas se passer. Le groupe crée société, crée coopération, et à partir de là, c'est merveilleux.
T'avais l'heure?
Ah non, justement pas. On n'avait aucune montre, aucun accès à la
lumière. Comment tu sais que ça fait 40 jours alors?
À la fin, il y a deux personnes, Jérémy Roumian et Malizine Malander, qui sont de mon équipe, qui sont venus nous chercher pour nous dire, guys,
c'est fini.
Il est temps de sortir. Et nous, ça a été une surprise totale. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti, qui va bientôt être sur YouTube, où on a les images de vidéosurveillance, où on voit la réaction des gens qui apprennent que c'est la fin.
Pourquoi, dans quel sens, tu pensais que ça ne faisait pas si longtemps ?
Non, nous, on était à notre 30e jour pour la plupart, notre 30e cycle. C'est-à-dire qu'on avait été se coucher et on s'était levé 30 fois. Donc nos journées, nos durées de vie se sont largement allongées. On s'est mis à faire des journées, des vies de plus de 30 heures, 35, 40 heures parfois. Bien. On a eu des nuits de plusieurs dizaines d'heures, jusqu'à 30 heures pour certaines personnes.
Mais non.
En fait, nos durées se sont complètement allongées.
T'as le rêve de Ben Jones d'arriver à 30 heures.
c'est le rêve de...
J'ai entendu, il a fait « waouh ».
Je crois que c'est le rêve de plein de monde.
Parce que je veux travailler dans des sites de 30 heures.
Bah bien. Non, mais en réalité, ce qui est fou, c'est qu'on s'en rend pas compte du tout. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas du tout l'impression de faire des journées aussi longues. Parce qu'on était dans nos systèmes, on suivait nos rythmes biologiques.
Ça, c'est passionnant. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, si on était... si la Terre tournait plus lentement et qu'elle mettait 30 heures pour faire le tour, notre corps, il serait habitué, on ferait des journées de 30 heures.
Ouais. Absolument, mais ça va plus loin que ça. Oui. Pourquoi? Et la question qui se pose, c'est... Alors qu'effectivement, on vit sous le système solaire, avec les 24 heures, 24 heures une, en fait, et que quand on nous coupe de cette information-là, et ça a été vrai dans toutes les expériences similaires, on allonge nos durées de journée et de nuit. C'est-à-dire que visiblement, notre biologie à nous
fait pour durer.
N'est pas faite pour 24 heures.
Ah oui?
Et ça, c'est. Là, c'est, ceux qui veulent créer des théories autour de ça, je vous laisse libre, parce qu'on peut imaginer plein de choses par rapport à ça.
C'est fou. Non, c'est vrai.
Ouais, c'est ça, fou. C'est...
Et tu mangeais avec beaucoup plus d'espace, etc. Tu t'étais réglé quand t'avais faim?
On mangeait quand on avait faim. Alors, c'est vrai que des fois, on se disait, on faisait nos trois repas, tu vois, tu petit déjeunes quand tu te réveilles, après, tu fais un repas plus tard, puis un autre repas. Puis on recommence à avoir faim. On se dit, oh, quand même, j'ai déjà mangé trois fois. Mais bon, alors, on mangeait une quatrième fois. En fait, quand on a vu les données,
ça faisait
20h, 25h qu'on était debout, quoi. Donc, forcément, on avait faim, quoi.
C'est pas vrai, je suis en train de faire un personnage qui est totalement faux. Notre cadreur, c'est pour rigoler. Hein.
Oui, il a l'air gentil.
Tout ce que je dis, c'est
il est gentil, il attaque pas, rassure-moi.
Il est génial.
Il est très sympa.
Donc là, on parle de nourriture. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus, une de plus. Non, c'est pas parce que vous consommez pas d'énergie sans faire de sport, dans une grotte, etc., que finalement, tu as des journées plus longues parce que tu n'es pas fatigué?
Alors, au contraire, parce qu'on faisait beaucoup de choses. Alors d'abord, on vit à 10 degrés, 100% d'humidité. Donc le corps, il travaillait énormément pour résister à cette température.
Vous vivez à 10 degrés?
Oui. Ah, wow. Oui, parce que alors, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand tu es sous terre, presque en surface, il fait froid plutôt, c'est-à-dire quand tu es plutôt à 10 degrés, 12 degrés. Puis évidemment, plus tu vas descendre, plus ça va se réchauffer. Mais au début, il fait plutôt frais.
Les 10 premiers
kilomètres. Donc on aurait dû aller plus profond, tu vois, j'aurais dû y penser. Non, mais voilà, on est à 10 degrés sans possibilité, donc on a froid, on lutte contre ça. Puis ensuite, on a plein d'activités. Parce qu'en fait, cette grotte, elle fait plusieurs kilomètres, elle est sur plusieurs niveaux, donc on doit explorer. Et puis surtout, notre eau, elle est à 20 mètres de hauteur dans un trou, donc il faut grimper en rappel pour aller la chercher. On doit sortir les déchets.
Oui, t'as quand même des activités physiques.
Il y a énormément d'activités, et des gens font du sport régulièrement. En fait, on est sur un niveau d'activité physique supérieur à un humain moyen dans la vie de tous les jours.
Tu fais des pompes, tu fais quoi pour faire du sport?
On fait tout ce qu'on peut faire dans un truc comme ça. On pouvait même courir, faire des pompes.
Et tu dors dans des tentes? Tu te mets des tentes?
Oui, on avait chacun notre petite tente, nos petits espaces. Donc on avait un espace de vie à 700 mètres de là pour qu'on ne soit pas du tout dérangé, l'espace de sommeil avec chacun notre espace à nous. Puis encore à 700 mètres, l'espace scientifique.
À 700 mètres?
Oui, comme ça on n'avait aucun risque d'être dérangé par le bruit. Bah oui, parce que le but, c'est qu'il ne fallait pas qu'on entende les gens au lieu de vie, en fait. Sinon, ça faussait l'expérience.
T'es en couple? Vous êtes parti à deux ou t'étais
non,
seul?
Non, alors on était 15.
Ah non, mais je veux dire, vous étiez. Est-ce que vous formez des duos pour essayer de vous réguler à deux?
Non, pas du tout, au contraire.
J'ai posé une question qui l'a gêné, je l'ai vue.
Petite panique. Quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Mais cette femme là, qu'est-ce que. Non, le.
En fait, il avait 14 femmes dans la grotte.
En fait, c'est ça. Non, le but c'était vraiment de vivre chacun à notre rythme. Donc c'est vrai que personne ne devait aller réveiller personne, imposer de manger à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire. Moi, ça fait 30 ans que je fais des expéditions, j'avais jamais vécu un truc comme ça.
C'est toi qui as pensé à ça?
Oui.
T'es fort.
Je sais pas, tout le monde ne pense pas comme ça. Hein, mais...
Moi, j'ai une question. Parce que l'aspect, tu passes quand même 30, 40 jours sous terre. Comment ça se passe pour les toilettes? Enfin, se laver, les douches, est-ce que tu te laves moins? Est-ce que...
Alors, on a installé des toilettes sèches, on avait un système de sas, on sortait les bases biologiques tous les 2-3 jours, on les amenait à un sas sans avoir de contact avec l'extérieur, puis on remettait ensuite des bidons propres. On avait installé des toilettes avec des systèmes de lavabo, des douches. Donc on avait tout ce qu'il fallait en fait pour vivre dans cette grotte, sachant qu'on n'avait quand même pas d'eau chaude par contre. On était à 10 degrés, l'eau était à 10 degrés, donc c'est vrai que tu te laves quand même un peu moins souvent, je te le cache pas. Mais bon, non,
tu
gaspilles pas l'eau. De toute façon, l'eau elle était très limitée, mais ça c'est extraordinaire aussi dans ce genre
vous
de
vous buviez pas de l'eau qui tombe du... Tu sais, parfois il y a des petites gouttelettes.
Oui, alors au début on avait ça, mais en fait ça s'est asséché au fur et à mesure du temps, il n'y avait plus du tout d'eau qui coûtait.
Ah waouh.
De toute façon ça n'aurait pas suffi non plus, donc il fallait quand même aller la chercher.
Vous ne chauffiez pas?
Non, parce qu'on était dans
des salles énormes. Trouvé des petites alcôves, tu vois.
On aurait pu, mais c'était pas le but. Il fallait qu'on reste quand même dans notre univers. Et c'est vrai que tu retrouves le sens de ce que c'est que l'électricité, de ce que c'est l'eau, de ce que c'est l'économie. Et on voit qu'on peut quand même vivre avec très très peu en réalité. Mm. Et ça, c'est aussi un vrai message, c'est que on devrait peut-être se poser quelques questions là-dessus. Mais c'est un autre sujet.
Comment tu t'éclaires?
Alors là, on avait de l'électricité, entre autres parce qu'on pédalait sur un vélo pour créer l'électricité, et puis on avait quand même un système extérieur si nécessaire. On avait sur le lieu de vie une grosse boule lumineuse qu'on pouvait allumer ou éteindre. Il fallait être au moins 5 et que tout le monde soit d'accord pour l'allumer.
Wow. Okay.
Et donc c'était une décision collective. Et puis sinon, on avait nos lampes frontales pour le reste du temps.
Il n'y a pas eu d'engueulade?
Si. Ah, il y a eu forcément, c'est 40 jours avec 15 personnes, il y a forcément des petites engueulades, mais très sincèrement, extrêmement peu par rapport à la
pollution. T'as allumé la lumière, je t'avais dit non.
Oui, il y a eu ça.
Des engueulades de radin, en fait, dans la vraie vie. Et donc, quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux, tout ça? Après 40 jours sans voir le soleil.
Oui, on sort avec des lunettes de soleil, forcément, parce qu'en plus, on est sorti vraiment, c'était le 24 avril, c'est le seul jour de beau temps qu'il y a eu de la semaine, dans les Pyrénées où on était. On sort, on est protégé.
Bonne pub, et là, du tourisme, ça.
Il fait très, très beau, sinon. Mais et là, c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, la première chose qui se passe, c'est que tu ressens des odeurs.
Ah, c'est vrai?
Parce qu'en fait, dans la grotte, il y a très peu d'odeurs, où elles sont toutes similaires, à part les nôtres. Mmh. On essaie de pas trop les sentir si on peut, et on ressent des odeurs. Et ça, c'est un moment magique, au-delà même de ressentir de nouveau le soleil, parce que l'odorat, c'est à nos sens les plus profonds, les plus puissants. Et quand on retrouve l'odeur d'une feuille, d'une herbe, de la pluie sur les... Enfin, c'est juste fabuleux.
Toi, tu as fait plein d'expéditions, on va en parler après. Il y a des lieux qui restent un peu inexpliqués, tu sais, des mythes comme le triangle des Bermudes. On a noté les lignes de Nazca aussi. Je vous mets une photo qui apparaît à l'écran. C'est des dessins qui ont été faits avec des cailloux. On va en parler dans deux secondes. L'île de Pâques aussi, comment sont arrivées ces têtes? Il y a plein de documentaires dessus. Moi, ça me passionne, l'île de Pâques, parce que je ne comprends pas. Voilà. Personne n'explique en fait vraiment, personne n'a vraiment trouvé de réponse à ça. Il y a Stonehenge aussi, dont on va parler après. Je vous mets à chaque fois les photos. Hein. Bon, les pyramides, vous voyez ce que c'est, évidemment. La théorie de l'alignement aussi. Il y a plein de choses qui sont alignées sur Terre. Mmh. On peut commencer par ça, puis après on va parler des différentes théories. Mais qu'est-ce que c'est que la théorie de l'alignement ?
Alors, la théorie de l'alignement, ce serait une théorie qui considère que tu places deux points sur Terre. En l'occurrence, les points qui ont été étudiés, c'était les pyramides de Gizeh. L'autre côté, c'était l'île de Pâques, avec les colosses, avec les Moai, justement. En faisant un cercle autour de la Terre, une sorte de périmètre, cette ligne-là, permettait d'avoir d'autres points de monuments assez immenses qui étaient existants sur Terre, par exemple les lignes de Nazca, le temple d'Angkor, plein de lieux comme ça. Alors c'est une théorie qui est approximative, parce que sur Internet, il y a plein de gens qui commencent à dire « oui, non, mais c'est précis ». Mais non, il y a quand même 50 km, 100 km, parfois 400 km autour de cette ligne-là.
Donc, mais ça reste quand même étonnant.
Ça reste quand même bluffant. Et honnêtement, j'ai commencé à regarder et consommer des vidéos de gens qui voulaient expliquer, je me suis dit « pourquoi pas ? On a envie de croire à ce que tu as.
Non, mais il y a une différence entre les théories, ce qu'on va appeler théorie du complot, les gens vont se dire oh là là, machin, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui.
Complètement.
Et c'est ça qui est génial aussi. Oui. Ça fait marcher un peu aussi l'imaginaire, c'est bien.
Il y a des imaginaires et il y a quand même des liens assez fous entre les peuples qu'on ne comprend pas bien. Et notamment, il y a des réflexes populationnels, civilisationnels qui sont constants. Par exemple, je vous prenais les peintures murales avec les mains qu'on voit parfois.
Ben ça, à vous Lascaux,
avez
tout ça.
À Lascaux, vous en avez en Patagonie, vous en avez au Groenland, vous en avez au Canada, vous en avez un peu partout. Donc en fait, on voit que des civilisations qui ne se sont jamais connues potentiellement ont eu des réflexes similaires de laisser une trace, de construire quelque chose. Et donc on peut imaginer que dans cette civilisation qui se construit, il y a des choses qui reviennent. Parce qu'on est néanmoins des humains dans tous les cas. Puis après, il y a d'autres théories, notamment les courants telluriques, qui font que dans certaines grandes lignes de courant qui pourraient exister, encore c'est théorique, hein, forcément on a construit autour de ces grandes lignes de courant et que ça rassemble en fait ces territoires. Tout ça, ça reste scientifiquement très discutable, mais ça veut dire une chose, et moi je trouve que c'est super important, c'est que malgré tout, il faut aussi rester humble sur nos connaissances par rapport à notre histoire et au développement de la civilisation.
Il y a la théorie aussi, alors c'est celle qu'on connaît le mieux en France et que tout le monde connaît, et ça intéressera, je pense, beaucoup de gens qui nous regardent, la théorie du Père Noël. Non, je ne sais pas où j'allais.
Moi, j'étais arrivé à l'eau et c'est...
J'ai la petite souris, mais je n'ai pas le Père Noël.
Alors, du coup, la théorie de la petite souris aussi. D'où vient
la petite souris?
Non, mais alors. En vrai, c'est vrai que l'humain a créé plein de théories, dans l'imaginaire, etc. C'est ce que vous avez retrouvé, du coup... je vous remets quelques images quand même de Godzilla Kong, le Nouvel Empire. Si vous allez retrouver, vous voyez, ce monde comme ça, en sous-sol de la Terre creuse. On peut parler de l'île de Pâques, deux minutes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on sait sur l'île de Pâques? Moi, j'en parle beaucoup avec des copains. C'est qu'en fait, tu disais les têtes, hein, les statues.
Exactement. En fait, c'est des colosses. Tous ceux qui sont allés sur l'île de Pâques, moi, je ne suis pas encore allé sur l'île de Pâques. Je suis allé sur Nazca, on en parlera après. Mais sur l'île de Pâques, on voit souvent des têtes dépassées du sol, qui semblerait cacher un corps qui se trouve en sous-sol. Parfois, les statues sont entièrement sorties de la terre. Elles font jusqu'à 10 mètres de haut et pèsent près de 80 tonnes, pour la plupart. Donc, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est comment elles ont été construites, taillées, plantées ou amenées à ces endroits-là. Parce que l'humain, elle date environ du 13e, 18e siècle. Le panel, l'âge, c'est entre 13e et 18e siècle. Aujourd'hui, on serait quasiment incapable, avec les appareils modernes, même les grues...
Les technologies actuelles.
Exactement, les technologies actuelles ne permettraient pas de faire ça. Et donc, les théories, c'est comment ont-ils fait par le passé.
C'est quoi ton idée là-dessus, Christian ?
Alors, l'idée, c'est simplement que les technologies évoluent. En réalité, aujourd'hui, on saurait déplacer ce genre de choses-là. On savait le faire sans doute avant, parce qu'on avait toutes les techniques de déplacement sur des rondins et autres. Simplement, c'est des choses qui ont disparu, parce qu'à des moments, des savoirs ont existé, qui ont un peu disparu à d'autres moments. Un seul exemple très moderne, hein, très connu, on était sur la Lune, les Américains étaient sur la Lune, 20 ans plus tard, ils ne savent plus y aller. Parce qu'en fait, le besoin technologique a évolué, la manière de faire a évolué, les techniques qu'on avait, on n'ose plus les utiliser, et elles disparaissent petit à petit. Et c'est vrai pour toutes les grandes technologies. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des hélicoptères avec l'électricité à l'époque, mais ils avaient des solutions qu'on comprend mal aujourd'hui, parce que c'était souvent avec des systèmes d'arbres, des systèmes de rondins, qui ont pourri, donc il n'est resté aucune trace.
Eh mais vient d'où la pierre ?
Ça, c'est des questions qui se posent, effectivement. On connaissait la marine, on connaissait la navigation. Encore une fois, moi, je n'explique pas, évidemment, plus que n'importe qui, ces théories. Ce qu'on sait, c'est que la technologie et la capacité humaine de création, elle est énorme et qu'il y a énormément de choses encore qu'on doit considérer comme, non pas surnaturelles, mais inconnues.
Parce qu'apparemment, ils seraient venus en pirogue, ils disent, dans les explications officielles, ouais. S'ils seraient venus sur des petits bateaux. Mais 80 tonnes sur un petit bateau, déjà sur un porte-container, ça le déséquilibrerait. Alors imaginez sur un petit bateau. Et c'est là où toutes les explications. Et moi, ça me fait rêver. Ça, vraiment, je peux passer des nuits à parler de ça avec des copains l'été, autour d'un apéro.
Moi, je me demandais si, justement, en fait, les roches évoluent. Enfin, on voit les montagnes évoluer, s'effondrer. Enfin, tous ceux qui ont vécu un peu la campagne le voient. Je me dis, est-ce que ça n'a pas été taillé directement sur place, à un endroit bien précis, mais les pierres parfois ne correspondent pas à la pierre qui se trouve en sous-sol.
Ça marche pas, ouais.
Donc c'est toujours un peu compliqué d'imaginer effectivement comment... c'est quand même 10 mètres de haut, 80 tonnes, c'est pas rien.
Ouais, donc on ne sait pas toujours comment ça arrive.
On sait pas.
Donc il y a toujours un peu, dans le prochain film, hein, Godzilla sur l'île de Pâques... qui mélange tous les trucs. Sur l'île de Pâques, il y a des statues qui sont absolument géantes, etc. Comme Godzilla Kong, etc. C'est immense. Est-ce que c'est possible qu'il y ait eu des humains plus grands ?
Il y a eu plein de théories sur des grands hommes. La plus développée, c'est celle des Tehuelches en Patagonie, puisqu'on disait qu'ils faisaient 3 mètres. Pourquoi ? Parce que quand l'équipe de Magellan arrive pour la toute première fois, ils viennent de... arrivés en Patagonie et ils voient des géants. Et Pigafetta, qui décrit le voyage de Magellan, raconte des géants. Et cette théorie va durer pendant 300 ans. Mais il ne faut juste pas oublier qu'à l'époque, la moyenne de taille des Occidentaux, des Espagnols, c'était 1,50 m. Et la moyenne de taille connue des Tehuelches, c'était 2 mètres. Donc forcément, des humains de 2 mètres. Donc forcément, ça donnait une telle différence qu'ils ont décrit des géants. La réalité, c'est qu'ils étaient grands, mais pas géants.
Ah waouh, ok, ça c'est intéressant aussi.
Ouais.
En quelle année c'était la moyenne, 1950
1500.
En 1500
ouais. Regarde les petites portes
on
de voyage.
On était beaucoup plus petits à l'époque.
C'est vrai.
L'humain a pris quasiment 40, 35, 40 centimètres en taille en 150 ans.
Ça s'est un peu calmé là, non?
Ça s'est un peu calmé, on commence d'ailleurs à réduire un tout petit peu, ouais, tout à fait.
Ah, ça re-réduit.
Manque de nourriture, plein de climats plus difficiles, tout ça font qu'on est un petit peu moins en train de se développer en taille, ouais.
C'est marrant, effectivement, entre ma génération et la génération de nos parents et de nos grands-parents, on voit déjà qu'il y a une vraie différence.
Énorme.
On est souvent plus grand que son père, ou plus grand que ses parents, etc. On voit que, effectivement...
En fait, quand une espèce va bien, qu'elle a à manger, qu'elle a du territoire et qu'elle se sent tranquille, elle grossit. Et quand elle commence à sortir des pressions et des difficultés, elle rapetissit parce qu'elle doit préserver sa ressource.
Ah ouais.
Là, moi j'ai eu beaucoup de pression et de difficultés.
C'est un humain de 1500.
Pas beaucoup mangé.
Ah oui, mais c'est parce que
j'ai bien grandi au 17e siècle, c'est génial.
1m50,
non, je suis quasiment 1m68.
Mais t'aurais été un géant à l'époque.
Je suis un géant moi à l'époque. Je rentre pas par les portes du Moyen-Âge.
Et c'est pour ça qu'il y a des petites portes, etc. Non, oui, mais c'est ouais. Super intéressant ce qu'on apprend. Merci en tout cas de nous expliquer tout ça.
C'est un plaisir.
Est-ce que tu as déjà rencontré, quelle est la plus grande créature que tu as vue, l'animal le plus grand auquel tu t'es.
Actuellement sur Terre, les animaux les plus grands, c'est les éléphants. Sous-marin, c'est clairement les baleines. Et déjà, rien qu'un rorqual commun, quand tu le vois côté sous l'eau, c'est déjà super impressionnant. Donc oui, ça c'est fabuleux. Sur Terre, aujourd'hui, c'est les éléphants, c'est certains ours. Moi, je me suis retrouvé devant un ours polaire à quelques mètres. Je peux te dire que c'est pas un Godzilla, mais ça fait peur. Et puis, évidemment, les gorilles, qui restent encore en quelques spécimens. Mais il n'y a plus d'énormes animaux comme il y a eu une époque de l'histoire de la planète. En tout cas.
On le saurait s'il y avait un Godzilla, un Kong géant qui avait existé, il y aurait des os. Un peu comme dans les dinosaures.
Il y aurait des os, on aurait trouvé en paléontologie, on a trouvé des os, mais quelque part, les très gros animaux, ils ont existé. Enfin, les dinosaures, on sait bien, qui ont été découverts, les ossements qui ont été découverts montrent bien que c'était des immenses animaux. Alors, est-ce qu'ils étaient aussi grands que ce que la représentation de Godzilla et de Kong aujourd'hui fait ça, je ne sais pas.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Mais en tout cas, ils étaient énormes.
En parlant de gigantisme et tu sais, de possibilités dans les rumeurs de l'humanité, où on était plus grand avant, ou en tout cas, il y avait peut-être une vue du ciel, ou alors même des extraterrestres. On a entendu que les pyramides avaient été faites par des extraterrestres. Moi, je me suis renseigné un peu sur tous ces sujets-là. Les lignes de Nazca, c'est des dessins vus du ciel. Là, regardez, vous en avez par exemple une araignée qu'on voit en géant. Toi, Seb, tu y es allé physiquement, oui. Tu as visité toi-même les lignes de Nazca. C'est, oui. C'est impressionnant, en vrai.
Alors, c'est plus qu'impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des Péruviens à Nazca, qui se trouvent à peu près au milieu du pays, au Pérou. Pérou, c'est une longue ligne. Et il y a un immense désert. Et on propose, pour pas grand-chose, de monter dans un avion qui ne tient pas très bien la route pour voir les lignes de Nazca. Je peux même filer les vidéos, si tu veux, pour qu'on les diffuse.
Ouais,
franchement, je les ai encore...
C'est un petit avion de tourisme.
Avion de tourisme, fenêtre ouverte, et il se penche bien voilà, comme ça, pour que tu vois les lignes comme il faut. Et c'est sur des dizaines, centaines de kilomètres. Des lignes tracées au sol. Mais quand je dis droite, c'est assez impressionnant. Et il y a des formes. Et des formes d'animaux. Et c'est ça qui est d'animaux ou de végétaux, ça dépend un petit peu. Mais par exemple, il va y avoir un colibri ou alors une araignée de manière très stylisée. Donc c'est très joli.
Ouais, vraiment bien fait en plus, quoi.
Mais sur des 40-50 mètres. Là, tu vois des photos qui sont. On va les mettre, les photos, mais c'est assez petit, mais c'est sur des centaines de mètres. Et c'est tracé de manière millimétrée. Et ça a été fait, c'est estimé à moins 500 avant Jésus-Christ et plus 500 après Jésus-Christ. Donc c'est à 2000 ans.
Et ils n'avaient pas de vue du ciel avant?
Ah ben non, aujourd'hui il y a des petits miradors placés à Nazca, ou sinon c'est par l'avion que tu vois ça, c'est uniquement visible depuis très très haut, et c'est parfait.
Et si tu vas visiter en bas, tu vois que des pierres, quoi.
Tu vois que des pierres, et encore tu ne peux pas accéder à certaines zones, justement parce que c'est protégé. Il y a beaucoup de secteurs au Pérou, par exemple ici du Pachacamac, qui est connu aussi, où il y a des vestiges, il y a des tombes, peut-être que tu as déjà vu, des tombes péruviennes avec les crânes, avec les coiffes d'Indiens et de l'or, tout leur or est enterré avec eux. C'est des sites très protégés, donc tu ne peux pas trop les visiter à pied, tu ne peux que les voir par avion.
Sébastien, il est spécialiste de tout, mais pour de vrai. C'est-à-dire que,
pour le coup, je suis allé jusqu'au bout.
Je me dis, oui, j'y suis allé, j'ai pris un petit avion.
Je ne suis pas explorateur, mais en tout cas, j'ai aimé découvrir cet endroit-là au Pérou. Quoi.
Et à côté, il y a le mont Machu Picchu aussi. Il y a plein de rumeurs, de théories, etc. Est-ce que tu as déjà visité le mont Machu Picchu?
Alors non,
non plus.
Jamais. Je suis devenu explorateur, c'est une des raisons pour laquelle je suis devenu explorateur, c'est Tintin, qui va au pays des Incas.
Il a fait le Congo, voilà. Du coup, le Tibet.
Et quand j'avais 12 ans, 13 ans, je voulais aller voir le Machu Picchu. C'était vraiment mon but premier. J'ai exploré le monde entier depuis, j'ai jamais été au Machu Picchu parce que je n'arrive pas à me dire que je vais le voir tel qu'il est aujourd'hui. Ultra touristique, ultra modifié. Moi, j'ai envie du Machu Picchu de l'époque, entre guillemets, où il n'y avait personne. Voilà. Et ça, je sais que je ne l'aurai pas et je préfère ne pas être déçu par ce que je vais voir.
Qu'est-ce que tu as vu là-bas?
Bah déjà, j'ai vu qu'il fallait payer pour entrer sur le site du Machu Picchu.
Oui.
On n'imagine pas, pour moi c'était une sorte de montagne classique, parc, mais c'est tout un tour autour. Et quand tu arrives au Machu Picchu, si tu ne vas pas très tôt le matin, tu es vite envahi par le monde. Et tu n'as pas l'endroit au calme. Donc ce que tu vois par contre, c'est des temples en pierre de taille très épaisse, très lourde, un peu comme vous pouvez l'imaginer sur l'île de Pâques. Et des temples où selon l'arrivée du soleil, selon la saison, ça rentre, ça tape dans les pierres, ça permet d'éclairer des pièces. C'est magnifique. C'est un travail de précision qui, pareil, est multimillénaire maintenant. C'est assez dingue.
Est-ce que tu as déjà risqué ta vie dans une exploration? Donne-moi un exemple d'une mission où tu as eu vraiment peur pour ta vie, si tu veux bien.
J'en ai eu quasiment dans toutes mes missions, mais si tu veux deux, trois exemples, ben, c'est en Patagonie, je suis tout seul sur un Zodiac pour aller repérer un zone au fond d'un fjord. Tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle un Willy Woo qui passe, c'est 250 km/h de vent qui balaye le fjord, qui me jette à l'eau. L'eau, elle fait 2 degrés. Moi, je suis un ciré de marin.
T'es seul ?
Je suis seul. Personne ne sait où je suis parce que c'est une mission solitaire. Et de l'eau à 2 degrés, normalement, tu as 5 minutes de survie. Je suis à plusieurs kilomètres de toute côte. Mon Zodiac s'est fait embarquer par la tempête. Et je sais que c'est fini. Et là, c'est un moment de ta vie où tu te dis, ben voilà, qu'est-ce que je fais de mes 5 dernières minutes ? Vraiment, tu te poses cette question, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que j'en fais ? Tu vois ? Et je me dis, bon, comme je n'ai pas tellement de raisons d'attendre, je me mets à nager. Et c'est vrai qu'au bout de 5 minutes... Tu peux plus, t'es glacé, t'as l'impression
t'es
de déplacer du marbre,
ouais.
T'es tétanisé. Et c'est un moment de ta vie où tu te dis, bah, c'est terminé. Voilà. Comme quand tout d'un coup tu vois une avalanche qui te tombe dessus, tu te dis, bah, je vais tout faire, je vais nager, je vais essayer de m'en sortir, mais c'est fini. Et ça arrive, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, ouais.
Attends, mais comment tu t'en es sorti? Parce que du coup, vu que t'es là...
Au moment où j'abandonne, en fait, où mon cerveau dit à mon corps, mais arrête de souffrir, ça sert à rien, la tempête qui continuait s'arrête presque et se dégage des nuages, il y a vraiment un peu de soleil qui traverse les nuages, et je vois l'image d'un tableau. Vraiment, ça, je vois un tableau dans cette image, et ça représentait le navire de la tempête de William Turner, qui est un des plus beaux tableaux du monde, et je le vois dessiné dans les nuages, et je vois où je l'ai vu, je vois la personne avec qui je l'ai vu, je me dis, je ne peux pas ne pas revoir cette personne. Et je me remets à nager, et j'arrive à mon Zodiac, qui était en train de flotter un peu plus loin, et là, en fait, c'est un gros Zodiac, moi je suis glacé, et j'arrive pas à remonter dessus. Et là, voile noire, et je me réveille dans ma tente, à mon camp de base, au bord de l'eau, avec mon sac de couchage sur moi, un thermos de thé chaud, deux jours plus tard. Et là, je peux te dire que tes théories du complot, tu t'imagines tout. T'imagines, mais c'est un dauphin qui est venu me sauver, il y a la main de Dieu qui m'a sorti, enfin, t'imagines tout. Et en fait, il va me falloir 6 mois pour retrouver ce qui s'est passé, pour que mon cerveau accepte de retrouver cet événement qui a été extrêmement douloureux. C'est qu'en fait, au moment où j'arrive vers mon zodiaque, je vois cette immensité, je sais que j'ai pas la force de monter dessus. Et là, de nouveau, j'abandonne. Et j'essaie une fois, j'essaie deux fois, j'arrive pas. Et au moment où je commence à relâcher prise, j'ai en fait un mouvement dans ma tête qui va revenir. Quand j'étais enfant, je faisais du cheval d'arçon. Et en fait, je l'avais oublié. Et quand j'abandonne, je retrouve la gestuelle du cheval d'arçon, je remonte sur mon zodiaque et je rentre à mon camp. Donc tout ça, je le fais moi. Mais comme c'était tellement douloureux, j'étais en souffrance absolue, mon cerveau l'a effacé.
L'a annihilé.
L'a annihilé. Voilà.
Et donc c'est toi qui étais, ouais, qui est revenu tout seul.
C'est moi qui suis revenu tout seul.
C'est vrai que sur un choc, on peut oublier.
Ah, sur un choc, sur une agression, sur des choses terribles, le cerveau il protège l'humain. Il dit bah ça, mets de côté et continue ta vie.
Waouh. T'as été pris aussi dans le froid. Alors c'est douloureux aussi, donc l'eau, mais des avalanches. Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Ouais, mais j'ai été, alors heureusement, par des très grosses en Patagonie encore, quand j'explorais la cordillère de Darwin, qui est une des dernières chaînes de montagnes qui était explorée à l'époque. J'ai été pris dans une petite avalanche dans les Alpes aussi une fois. Et ça, c'est encore autre chose, parce que c'est vrai que tu te rends compte que tu vois ces masses de neige qui sont énormes, et tu te rends compte combien tu es petit, mais à chaque fois. Et je crois que c'est vraiment le message de la nature. C'est nous, les humains, on est super petits quand même par rapport à cette immensité. Et oui, heureusement, je suis toujours là pour le raconter, mais on n'a pas envie de vivre ça trop souvent quand même.
On a fait une interview ici d'un militaire.
GMHM.
Exactement.
Qui a fait la traversée de la Cordillère de Darwin en 2011.
Exactement, 2014. 2014, exactement. Sur le film de Darwin, ils ont fait un film et il était assis à ta place il y a une semaine.
Ouais. Voilà. Un mois avant eux, en 2006, j'étais le premier homme à rentrer dans le centre de ces montagnes.
D'accord, waouh.
En solitaire.
Pas facile non plus.
Ah non, c'était 5 ans d'expédition, plusieurs tentatives, des histoires de folie, des journées entières de perdues dans la tente. Enfin, c'est l'endroit le plus complexe climatiquement parlant du monde. J'ai jamais connu un endroit comme ça. On a jusqu'à 24 typologies de météo dans la même journée. Il peut faire très beau, très froid, du vent, ça s'arrête, ça repart. Tu sais jamais ce qui va se passer. Et c'est le seul endroit au monde où j'ai vu des crevasses s'ouvrir et se fermer dans la même journée, tellement il y a des mouvements. Bref, t'es dans un univers qui te dépasse complètement. Moi, je l'ai appelé les origines du monde, parce qu'il n'y a rien qui te rappelle l'humain, t'as aucun pylône, t'as même pas d'avion qui le survole parce qu'il y a des courants qui empêchent les avions de survoler. Donc quand t'es là, t'es vraiment aux origines du monde et là tu peux t'imaginer tout, tout.
Il y a plus d'humains, tu croises plus personne. Dans Godzilla, Kong, Nouvel Empire, il y a pas d'humains non plus dans la Terre. Il y a plus personne, etc. Est-ce qu'on pourrait, imaginons, on te prend, alors toi t'es aguerri, mais même si t'es aguerri, on te met dans le film Godzilla Kong, le Nouvel Empire. On te met dans la Terre creuse. On te met dans un univers qui est génial. Et moi, le fait d'en parler depuis tout à l'heure, j'ai envie de le revoir, le film. Ouais. Est-ce que tu survivrais aujourd'hui si tu étais le seul humain? Parce qu'on est, des animaux, les humains, ils sommes sociaux, qui nous entraidons en meute, etc. Mais est-ce que si on était tout seul, on survivrait?
Un humain seul, il n'est pas fait pour survivre.
Face
en fait, on est extrêmement fragile en tant qu'humain. On n'est pas du tout fort, on n'est pas puissant, on n'est pas rapide. Et on a réussi à survivre dans l'histoire de notre humanité que parce qu'on a été en collectivité. Seul, on n'est rien. Alors, il y a quand même quelques histoires de personnes qui se sont perdues en Amazonie ou qui ont été développées en Amazonie, qui ont réussi à survivre. Quelle est la part de vrai, la part de faux, c'est toujours difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une compétence assez profonde qu'on a en nous. On a connu plein d'espaces géophysiques dans notre histoire humaine. Génétiquement, on a certainement des bases de ces différentes histoires de notre vécu. Et donc, peut-être qu'on trouverait des solutions. Mais il faut quand même admettre que face à un Godzilla, face à un Kong, avec la taille qu'ils ont, et comme ils ont pas l'air toujours très sympas quand même, je pense que ça ne durerait pas longtemps. Pour moi, on a survécu, certes parce qu'on est endurant, mais parce qu'on était en équipe. Un humain seul, il ne chassait pas. Voilà. C'est tout ce qui a construit l'humanité, c'est la compétence sociale. Et c'est ça qui est extraordinaire, et ça on l'oublie un peu trop souvent, je crois, surtout aujourd'hui.
Est-ce que le monde pourra devenir sans être humain?
Oui, bien sûr, évidemment. Je dirais qu'aujourd'hui, notre lutte elle est plus pour sauver l'humain que pour sauver la planète. La planète, elle va se sauver toute seule. Elle a déjà connu énormément de choses. Donc si l'humain disparaissait, la planète, elle continue de vivre, et d'autres animaux aussi. Donc la lutte qu'on fait aujourd'hui pour préserver notre planète, c'est d'abord pour préserver notre espèce.
Ouais. Ça fait penser, tu te rappelles, le jour où on s'est envoyé ces photos de l'IA qui modifiait des villes pour les rendre beaucoup plus vertes qu'elles ne sont, tu vois, comme si ça revenait un peu en arrière, un peu dans une ambiance préhistorique quasiment. Et on n'imagine pas aujourd'hui, on voit tellement peu de nature, parce que les gens sont principalement citadins, et dans les campagnes même, ça devient assez plat, il n'y a pas beaucoup de grandes forêts, il n'y a pas ce côté, comme on pouvait avoir à l'époque, quand on voit les livres d'histoire, les dinosaures sont gigantesques, les mammouths sont plus gros, les mégalodons dans la mer sont plus gros, tout est plus gros en fait. Et aujourd'hui, on a plus ce truc-là, on pourrait pas faire face. Pour moi, je pense qu'on pourrait pas faire face à ces réalités-là, quoi.
Si jamais il n'y avait plus d'humains, dans 5 ans, il n'y a plus de route, déjà. Parce qu'il y aurait des sédiments, des arbres en 3, 4, 5 saisons avec les feuilles, ça ferait de la terre, il y aurait de l'herbe, on verrait même plus les routes, etc.
Ça irait très vite.
Et c'est impressionnant. Hein. Pour un reportage qui n'est pas encore sorti, mais qu'on est en train de préparer, on a fait de l'urbex, de l'exploration urbaine. On a eu la chance de faire une centrale nucléaire abandonnée. Et moi, j'ai eu la chance de visiter un collège abandonné depuis longtemps aussi, lors d'un tournage. La cour de récréation, c'est devenu une forêt en 6 ans.
C'est un message qu'il faut faire passer aussi, c'est qu'on parle beaucoup du trop tard, en fait, mais pas du tout. Si on arrête de développer un territoire, ce territoire, il reprend ses droits très, très vite. Et ça, c'est un message d'espoir, quand même.
Ou alors, il faudrait aller dans la Terre creuse. Il faudra fuir. C'est ce que pense Elon Musk, d'ailleurs. Il est en train de préparer Mars, parce qu'il pense que ça va être rapidement invivable sur Terre. C'est fou, hein.
Ouais, alors c'est clair que là, on est dans des grands imaginaires, on pourrait imaginer...
Voilà, il n'est pas en train d'imaginer, il met des milliards dedans.
oui, mais non, mais qu'on va y aller, ça aujourd'hui, c'est plus un doute. Qu'on va réussir à y développer des colonies vivantes à long terme, ça par contre, il y a encore beaucoup de questionnements là-dessus.
Tu as fait une mission, Christian Clot, qui est aventurier, si vous écoutez aussi en podcast. Hein, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. On est premier podcast de France en ce moment sur Spotify, donc merci beaucoup à vous tous de nous écouter sur Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Là, on fait une émission, du coup, à l'occasion de la sortie de Godzilla et Kong, le Nouvel Empire. On parle de justement d'aventure dans le film, c'est un film d'aventure, d'exploration, donc c'est pour ça qu'il y a aussi Christian qui est avec nous. Tu as vécu une mission au Chili, dans une tempête avec 200 km/h de vent. Si tu peux raconter ce qui t'est arrivé, aussi une histoire assez folle.
Oui, bah c'est le même endroit, c'est cette fameuse cordillère de Darwin où les choses changent très vite et on sait que ça va changer très vite, donc on accepte ça, on se prépare à ça. C'est une chaîne de montagne qui est très difficile d'accès, on y accède par la mer, ensuite il faut traverser des forêts totalement primaires où il n'y a aucune trace d'humanité. Ensuite on continue, on arrive sur des glaciers. Et avec toutes ces conditions qui changent très vite. Puis un soir, il y a une tempête qui nous tombe dessus, qui effectivement a des vents de 200 km/h et qui va perdurer pendant plusieurs jours, longtemps. Et là, on est dans une condition où nous, humains, on se sent vraiment très, très, très petit.
Comment tu vas sortir ? Comment tu vas t'en sortir ? Combien de temps ça dure ?
Ça dure des jours et des jours. Et on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que la seule solution de s'en sortir, c'est d'attendre. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. On doit se protéger au mieux, on doit se faire un cocon de nous, on se protège d'une petite tente qui menace de se déchirer en permanence, et on doit attendre.
T'as une tente de secours ?
Alors ça dépend, des fois on a une tente de secours, quand on est seul ou à 2-3, non, on n'a pas de tente de secours, parce que c'est trop de poids. En fait, on doit toujours faire le bilan entre le poids porté, qui nous ralentit, et la sécurité qui, effectivement, est nécessaire.
Qu'est-ce que tu vas manger pendant expédition comme ça, quand ça dure des jours en plus, comment tu fais pour les vivre ?
Manger, c'est pas un sujet, même si on mange pas pendant plusieurs jours, et en l'occurrence, on n'a pas forcément accès à nos dépôts de vivres, c'est pas un sujet. Tu peux rester 15 jours, 20 jours
sans manger. Combien de temps tu as déjà pas mangé dans une expédition ? Par exemple, là, combien de temps tu n'as pas mangé ?
Là, ça fait 5 heures, mais...
dans cette expédition
le plus long que j'ai pas mangé, c'est une quinzaine de jours.
Mais tu n'as pas mangé du tout ?
Pas du tout, ouais. Mais par contre, on a bu, mais pas mangé du tout.
Oui, tu peux pas vivre sans boire 15 jours.
Non, alors ça, j'ai vécu aussi. J'ai vécu 2 jours et demi, presque 3 jours sans boire du tout.
3 jours, c'est arrêt cardiaque en théorie.
Ouais, 3 jours, c'est d'une violence.
Il paraît que 2 jours, tu peux faire un coma. Hein. Les premiers gens.
Ça va très vite. Ça va très vite. Et c'est la chose la plus douloureuse que j'aie connue. C'est terrifiant, la soif.
La mort de soif.
La mort de soif. C'est-à-dire que chaque cellule a besoin d'eau. Tout le corps a besoin d'eau. Et quand tu commences à avoir soif, tout ton corps, chaque cellule de ton corps appelle de l'eau qui ne vient pas. Et donc tout te fait mal, parce que tout te dit « Hey, il y a un problème ». Et ça, c'est terrifiant, parce que tu n'as plus un seul espace de ton corps qui est calme. Et c'est une violence, une douleur que je ne souhaite à personne, et malheureusement, qui arrive de plus en plus souvent sur la planète.
Ça te fait des maux de tête, etc.
Ah, mais c'est au-delà du maux de tête. C'est, le maux de tête, c'est vraiment le tout début, c'est juste le premier signal. Les sécheresses dans la bouche, le maux de tête, les articulations qui commencent ensuite à devenir difficiles à bouger parce que tu n'as plus d'eau.
Ah, tu sens ça?
Ah, mais tu sens tout. Tu sens, au fur et à mesure des jours qui passent, des heures qui passent, tu sens tout ton corps qui hurle, mais vraiment qui hurle. Et le corps, quand il hurle, il fait mal. Donc, non, vraiment, je n'ai jamais connu, de toutes les douleurs que j'ai connues dans ma vie, de douleurs aussi extrêmes que celle-là.
Que la soif.
Que la soif.
Waouh, c'est anxiogène. Hein.
Moi, ça m'est arrivé d'avoir soif. Et en fait, je n'étais même pas dans ces proportions-là. C'est que je suis parti à l'époque, j'étais scout et je faisais des randonnées, mais d'une journée complète, de 24-48 heures.
C'est Jean-Louis l'explorateur, mais en moins incroyable.
On
n'a pas eu les moyens de se payer deux explorateurs. Moi, j'étais scout, les gars.
On est parti le matin très tôt et c'était une randonnée sur deux jours, ce qu'on appelait les randonnées exploration-découverte. Et on a fait l'erreur. C'était une crevasse, on descendait. On a eu tous soif à arriver en bas. On s'est dit, on va boire notre eau. On a bu toute notre eau. C'était débile, hein. Et après, il nous restait une journée à faire sans eau, enfin quasiment 24 heures. Et on a dû tout remonter, le cagnard, les crêtes, les montagnes et tout ça. Et là, le seul truc qui restait dans mon sac, c'était un brumisateur d'eau. On était tous morts de soif, on était énervés, on parlait mal les uns aux autres. Je commençais à avoir des maux de tête. Quand on arrive au village le lendemain et qu'on a trouvé une fontaine, on s'est jeté dessus. Et j'ai tellement bu que j'en ai eu après un mal au ventre comme je n'avais jamais eu de ma vie. Parce que tu te goinfres d'eau de ce que tu as manqué pendant tout ce moment-là. Je ne sais pas si c'est.
Ouais, mais en fait, tu as trois choses qui vont créer des violences énormes entre humains. Le manque d'eau, évidemment. Le manque de nourriture s'il dure très longtemps. Et la chaleur. Le manque d'air, non, parce que ça va trop vite. En fait. Si tu n'as pas d'air, en trois minutes, tu es mort. Donc, tu n'as pas le temps de t'énerver. Quoi. C'est ça qui est bien. Donc, mais par contre, pour le reste, c'est un peu plus embêtant. Et c'est vrai que le manque d'eau, ça va très vite. Hein. Tu commences à.
Les militaires disent trois jours, ouais. Un jour, tu te sens mal, deux jours coma, trois jours d'arrêt cardiaque.
Bien sûr. Alors, il y a des gens qui ont tenu plus que trois jours, théoriquement, mais ce n'est pas la question.
Les forces humaines
normales,
il va
mourir au bout de trois jours. En fait, c'est la fameuse théorie des trois hein, qu'on connaît tous. On meurt en trois secondes avec la connerie, en trois minutes avec le manque d'air, en trois jours avec le manque d'eau, en 30 jours avec le manque de nourriture. C'est la théorie des trois, et ça marche très bien. Et il faut toujours l'avoir en tête, parce que justement, si on se retrouve dans des difficultés d'eau, si on a une minute d'eau, on peut le faire. Il vaut mieux boire ce demi-litre gorgée par gorgée pendant deux jours que de le boire d'un coup.
Ah oui?
Parce que ton eau, en fait, tu ne peux pas assimiler beaucoup d'eau d'un coup. Donc en fait, tu vas perdre une partie de l'eau qui ne servira à rien et du coup, tu ne l'auras plus pour plus tard. Donc il faut vraiment répartir son eau sur le nombre de jours que tu as.
On peut boire son urine. Il y a des explorateurs qui l'ont fait pour se sauver la vie, en vrai. Combien de fois?
On dit que la première urine, tu peux la boire sans problème. La deuxième, tu peux encore la boire. On dit que la troisième devient vraiment dangereuse et la quatrième, ça devient très négatif.
Ah oui? Voilà. Parce qu'il y a plus de saleté que de.
Voilà, c'est ça. Tu bois plus que du. Tu bois de l'urée qui est toxique et en fait tu crées du neurotoxique pour finir et ça marche pas. Quoi.
À un moment donné, ça parle de pyramide. Dans Godzilla Kong, le Nouvel Empire, il parle justement d'une entrée dans une pyramide qui permet d'accéder justement à la Terre creuse et d'arriver dans le monde du dessous. Est-ce que tu as eu la chance déjà, même si toi tu es explorateur, donc le fait d'explorer, c'est ce que tu disais, c'est plus des zones qui n'ont jamais été ou très peu vues et visitées. Est-ce que tu as eu la chance de pouvoir visiter une pyramide déjà?
Alors, visiter une pyramide, non, sinon une qui est visitée appartement. Moi, c'est pas mon métier. Je suis pas archéologue, je suis pas paléontologue, je suis pas spécialiste de l'histoire, donc j'ai pas de raison qu'on m'ouvre les pyramides, sinon parce que je suis très sympathique et que je fais des beaux sourires, mais ça s'arrête là. Donc c'est pas là mon métier. Par contre, c'est sûr que c'est fascinant et je comprends toutes les personnes qui ont été fascinées et les chercheuses et chercheurs qui ont travaillé là-dessus. C'est fabuleux. Et on va encore découvrir des tas de choses, parce qu'en réalité, l'exploration, elle n'est évidemment pas seulement d'aller sur des terres inexplorées, mais elle est vraiment d'aller pousser plus loin une connaissance. Et Dieu sait, sur le monde égyptien et de cette époque, on n'en connaît pas grand-chose. Quoi.
Tout à l'heure, on parlait de l'île de Pâques, là, pour parler de, justement, comme dans le film, il y a une entrée dans la terre creuse. On ne sait toujours pas vraiment comment elles ont été faites, les pyramides, c'est un peu comme l'île de Pâques, comment ces gros blocs ont été posés à l'époque, on n'est plus capable de les faire. Qu'est-ce qu'on connaît des pyramides?
Les pyramides, ce qu'on connaît tous, c'est les pyramides égyptiennes, celles de Gizeh, qui ne sont pas les plus anciennes, parce qu'il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de Djéser, donc un peu plus loin que celle de Gizeh, qui est un peu plus. Elle a une forme un peu particulière, mais c'est un tombeau, de la même manière, qui a 100 ans de plus que celle de Gizeh. Ça, c'est la pyramide égyptienne la plus ancienne, et c'est actuellement la plus ancienne au monde en état de conservation, qui a 4500 ans du coup. Après, il y a différentes pyramides qui existent dans le reste du monde, notamment une à Gunung Padang, c'est en Indonésie. Alors, ce n'est pas une pyramide visuellement, elle aurait 15 000 ans. Donc là, pour le coup, c'est encore un autre prisme. Et il ne reste que des ruines, c'est en haut d'une colline, et il semblerait que ce soit, alors là encore, on n'a pas de date exacte, mais ce soit la plus ancienne du monde, dans, en tout cas d'après les scientifiques aujourd'hui.
C'est, non, mais c'est intéressant, ça, toi, t'y crois pas ?
C'est vrai que j'y crois pas.
Ça les pyramides, t'y crois pas ?
Non,
je ne crois pas les choses qui
se passent. Non, après, il n'y a pas longtemps qu'il y avait de l'électricité, d'ailleurs, à l'époque, enfin, tout ça. Bon.
Là, on a vu que c'était une entrée dans le monde, on peut se poser la question à quoi ça servait. Après, on a vu que c'était des tombeaux, mais finalement, on n'est pas sûr que ce soit des tombeaux. Sur plein de pyramides, il n'y en a pas. Il y a des passages qu'on n'arrive pas toujours à décortiquer. On a mis des rayons laser. Finalement, il y a des salles complètement fermées, on ne sait pas par où y aller. Il y a des tunnels. On ne sait pas où ils sortent.
Ouais, et puis celle-là, il faut pas dire que c'est visible, ces pyramides-là, on les voit, donc c'est normal. Ça a alimenté plein de choses, mais il y a des tas de choses qu'on est en train de découvrir en faisant des fouilles, notamment les sites de Göbekli Tepe en Turquie, qui sont des sites qu'on vient de découvrir il y a quelques dizaines, enfin quelques années, qui remettent tout en cause sur les civilisations. C'est absolument fabuleux. Il y a Yonaguni au Japon, sous la mer, hein, c'est une pyramide aussi, mais qui n'est pas accessible. Donc en fait, on est en train de voir, il y a beaucoup plus que simplement ces pyramides, dans un certain sens, qui sont déjà extraordinaires. Et c'est là que voilà, il faut vraiment que l'humain réapprenne que on est à un temps de notre histoire où parce qu'on a beaucoup inventé puis qu'on est très intelligent selon les théories, on pense que les autres étaient inférieurs à nous. On pense déjà que tous les autres animaux sont inférieurs à nous, mais on pense aussi que tous les autres humains avant nous étaient inférieurs à nous intellectuellement. Alors que non, l'humain il a toujours été capable de développer des choses extraordinaires et il faut en avoir conscience, quoi.
C'est juste que la technologie nous aide aujourd'hui, mais en réalité, ils en avaient peut-être une autre qui marchait très bien. Comme ils se soignaient avec les plantes, comme etc., etc.
Ce qui est fascinant pour les pyramides, je trouve, c'est que quand même, on parle de différentes zones du monde, que ce soit le Japon avec Yonaguni, que ce soit Guatemala avec El Mirador, ou que ce soit l'Égypte, ou que ce soit...
Ah, oh, il a prononcé le R comme un vrai espagnol.
El Mirador, je peux pas, Guillaume, c'est dans mon sang, je peux pas.
Il parle espagnol, première langue, hein, c'est sa langue maternelle. Donc.
Et en fait, dans chaque coin du monde, il y a eu des pyramides, même la Bosnie, en Europe du coup. Enfin, il y aurait eu des pyramides. C'est encore un état de pour l'instant, de théorie, mais en tout cas, des endroits où ce seraient des montagnes. Est-ce que c'est naturellement, de manière géologique, que ça s'est construit en pyramide ? Dans tous les endroits du monde, il y a eu des pyramides. Qu'est-ce qui crée, justement, ce lien entre chacune ? Est-ce qu'il y a un lien entre chacune ?
C'est un endroit où il y a les animaux qui dominent dans le film, Godzilla Kong, le Nouvel Empire. Est-ce que, toi, tu as déjà vu une zone sur Terre où c'était les animaux qui dominaient vraiment, où tu es allé visiter des trucs et tu t'es dit, OK, là, je suis en danger ?
Alors, je ne me suis jamais senti en danger par rapport aux animaux, dans le sens que j'ai toujours considéré que l'animal...
Tu les manges, quoi,
je les mange, voilà, et puis au plus, on les tue. Non, je ne me suis jamais senti en danger parce que, tout simplement, pour moi, les animaux, ils sont sur leur territoire et c'est à moi. C'est d'abord moi qui les mets en danger la plupart du temps et c'est à moi de faire attention. Mais clairement, dans la forêt tropicale, dans les forêts équatoriales, dans les forêts d'Amazonie, les forêts africaines, on sent bien quand même que nous ne sommes pas les maîtres. Dans un certain sens, il y a une vie. Et encore une fois, ces animaux sont pas, ils m'attaquent pas. Ces animaux, ils sont pas là pour me faire du mal. Simplement, si je fais une erreur, si je pose ma main sur un arbre sans avoir regardé, puis qu'il y a un serpent dessus, si je m'assois par terre sans regarder, puis qu'il y a une araignée, elle va se défendre, c'est normal. Mais au-delà de ça, on voit cette vie foisonnante qui est de millions, milliards d'animaux de toute taille. Et moi, ça m'inspire un immense respect. Enfin, on sent bien que dans ce territoire-là. On n'est vraiment qu'un animal parmi les animaux.
Toi, tu as visité les pyramides souterraines, parlé au Japon. Tu as visité, tu as plongé.
Ouais.
Je vois des photos, on parlait de pyramides avant. Donc ça s'appelle les pyramides souterraines de Yonaguni. Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est des sortes, enfin, de loin, on a l'impression que c'est des grandes marches, effectivement, qui sont une structure construite en pyramide, en marche, énorme. Gigantesque, bien préservé. Et là encore, comment ça a été construit, d'où est-ce que ça vient. La datation est encore imprécise parce que c'est compliqué d'aller faire la datation dans ces conditions-là, mais on parle quand même de moins 5000 ans potentiellement. Donc c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire. Et là, pour le coup, qui est peu accessible parce qu'il faut y aller effectivement plonger sous-marine, même si ce n'est pas très profond en réalité, hein, mais maintenant c'est protégé, tout le monde ne peut pas y aller. Et oui, ça fait partie des sites qui nous intriguent, qui sont...
Pourquoi c'est sous l'eau ?
Ah, parce que l'eau a monté.
De la terre ?
Oui, c'est ça. L'eau était plus basse à une époque.
Est-ce que c'est normal ? Tiens, justement, c'est un vrai truc. J'ai eu la chance d'aller au Vietnam et de visiter la baie d'Along. Et à un moment donné, j'étais en l'air, sur une des montagnes, vraiment 100 mètres au-dessus de la mer. J'ai trouvé des fossiles marins.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles Darwin a compris la théorie de l'évolution. C'est parce qu'il a trouvé, entre autres, des fossiles à 5000 mètres d'altitude. Quand il va au Chili, il grimpe, il se trouve des fossiles entre l'Argentine et le Chili actuel, très haut, et il réalise qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pense que la Terre a 4000 ans, et il voit bien que l'érosion des sols et le niveau des mers qui baisse et qui monte éventuellement ne peut pas se faire en si peu de temps. Donc c'est le premier indice qui lui dit, mais en fait, il y a un problème sur la datation de la Terre. Et ensuite, plein d'autres faisceaux vont l'amener à se dire, on a un petit souci sur la théorie, il va falloir qu'on y bosse.
Pour terminer, deux petits sujets rapides, mais c'est intéressant. Kong, je reprends les dimensions pour que vous les imaginiez dans le film. Kong fait 100 mètres de haut. Alors on explique sa taille du coup dans le film par une irradiation radioactive due aux essais nucléaires américains dans le Pacifique. C'est dans le pitch du film. Dans la nature, on a trouvé des espèces géantes. Parfois, ouais. On ne sait pas trop. Si tu peux dire, tu as bossé le sujet, c'est hyper intéressant. Il y a des photos assez incroyables.
Bah, le calmar, tu vois, qu'on trouve dans la mer.
Le quoi ?
Calmar, ça dépend. C'est écrit de différentes manières et toutes sont acceptées.
Exactement.
Voilà. Donc, tu ne m'auras pas le.
Parce que, ouais, on dit calamar. Calmar, sans le A, mais c'est dans les pays plutôt, mais on le dit en France aussi.
Oui, absolument. Ouais. Et à la base, c'est des petites tailles, les calmars. Ça va de 60 cm à 1 mètre, à un peu plus gros, mais ça fluctue entre ces tailles-là. Sauf que dans les abysses, et dans certaines filets de pêcheurs, et certaines remontées de pêche.
Ou les morts. Les animaux morts qui flottent.
Exactement. Et ben, on a découvert des animaux qui faisaient jusqu'à 12, 13 mètres de long. Donc, pourquoi ça s'explique, c'est qu'en fait, ils ont tellement d'espace, pas de prédateurs. Les animaux sont les prédateurs, ils ont tout l'espace qu'ils veulent, et on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi l'idée. C'est que quand tu peux grossir, que tu as la nourriture pour, que tu as l'espace pour, ben ça prend plus de place.
Parce qu'il y en a déjà qui sont en train de jouer avec l'ADN aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de recherches.
Alors il y a un mec qui est arrêté parce qu'il a voulu faire des mouflons, donc une sorte de bélier géant, voilà, de très grande taille. Mais ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Il y a aussi l'histoire du mammouth. On sait aujourd'hui recréer l'ADN d'un mammouth. Ça, c'est récent.
Avec les poils et tout ça, ouais.
Exactement.
Et
on a l'ADN. C'est-à-dire qu'on pourrait recréer factuellement de toute pièce un mammouth.
Comme, effectivement, faire du clonage.
Exactement.
Finalement.
Partir d'un ADN pour le cloner, pour le créer.
On sait faire.
Intégralement. Exactement. Bien sûr. Pourquoi on le ferait, pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on fait revenir une espèce qui est censée avoir disparu naturellement? C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'on joue avec la nature à ce point-là? C'est là que ça crée en général des déséquilibres.
Mais ça va plus loin. Il y a des théories aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent plus ou moins sérieusement sur la modification ADN de l'humain pour qu'il soit plus résistant à la chaleur, plus résistant au manque d'eau, plus résistant à des conditions futures potentiellement dures. On ne peut pas empêcher des personnes d'imaginer des choses comme ça. Je crois que c'est notre raison d'être et notre éthique aujourd'hui qui doit simplement nous empêcher d'aller plus loin, et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne se fait pas. Mais il y aura toujours des gens qui, dans un laboratoire secret, entre guillemets, dans leur garage, comme se créent toutes les start-up, pensent à des choses. Et c'est vrai que CRISPR-Cas9, cette nouvelle manière de découper l'ADN et de le recréer, vient de permettre de guérir des maladies qui étaient incurables jusqu'à aujourd'hui, donc c'est fabuleux.
Ça a apporté du bien et du mal.
Ça a apporté du bien, et forcément, ça peut aussi apporter du danger.
Pourquoi est-ce que tu penses que toutes les théories de la Terre creuse passionnent autant les gens, tous ces trucs-là ?
Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est vraiment que nous, humains, on se développe avec l'imaginaire. Quand on est bébé, quand on est enfant, au début, on a connu le berceau, puis petit à petit, on en sort, on se développe, et on commence à comprendre qu'autour de nous, il y a un monde qui est bien plus vaste que celui qu'on avait imaginé jusque-là. Et on commence à la fois à le découvrir physiquement et très rapidement à concevoir des concepts beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. On comprend des concepts qui nous dépassent, qui deviennent visuels mais intellectuels. Et on a besoin de ça. L'humain, il est développé par son imaginaire et l'espérance. S'il n'a pas ça, il n'arrive pas à se développer. Et donc, ça reste dans notre ADN, c'est profondément en nous. Et quand on grandit, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de juguler un peu ça pour nous faire rentrer dans un système social. Mais au fond de nous, on a toujours cette envie. Et quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on n'explique pas, on a besoin d'y calquer un imaginaire, un espoir, une idée, quelque chose de plus grand. Il y a aussi l'idée qu'on a des fois une condition difficile qui ne nous convient pas, et on espère toujours qu'ailleurs, une autre condition pourrait être merveilleuse, extraordinaire.
L'herbe est plus verte ailleurs.
L'herbe est plus verte ailleurs. Donc voilà, cet inconnu attire, à la fois fait peur, et la peur, ça tombe bien, parce que c'est un de nos éléments les plus importants. On a plusieurs émotions. On est conduit, drivé par nos émotions. Sans émotion, pas de décision, on ne fait rien. Et la mère de toutes les émotions, c'est la peur. Parce que c'est la manière dont on a de survivre. C'est-à-dire que parce que j'ai peur, je suis capable de voir autour de moi les dangers potentiels. Parce que pour nous, en tout cas, on a besoin de continuer de développer la peur et de la ressentir pour qu'elle continue de travailler. Donc inconsciemment, on joue à se faire peur. On en a besoin, donc c'est pour ça que tous les films comme Godzilla et Kong et les manèges et tout ça nous attirent, parce que inconsciemment, ça nous permet de continuer de travailler cette ressource indispensable qu'est la peur.
On a besoin d'aventure, on a besoin d'exploration. Voilà, Godzilla Kong, le nouvel empire. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Si vous voulez prendre le ticket, je vous mets tout ça. si vous voulez revoir voilà, des images et vivre un peu tout ce dont on vient de parler sur la Terre creuse, sur tous ces mythes-là, justement, où il n'y a pas d'être humain, où il y a tout dans le sol, finalement, en dessous de nous. Et juste un dernier chiffre, vraiment, on a halluciné quand on a préparé l'émission, je trouve ça passionnant à dire, sur la vie microbienne, c'est-à-dire sur la vie intraterrestre.
Oui, alors, on en parlait tout à l'heure. Quand on parlait de creuser la Terre, ce qui avait été fait avec les perforations du sol à 12 km, il y a toujours la vie intraterrestre, c'est justement cette vie qui existe, mais sous forme microscopique. Il y a des espèces qui vivent à 12 km sous Terre, des bactéries, des planctons. Voilà, on en parlait, c'est assez incroyable. C'est que finalement, on imagine que plus on va aller dans le centre, plus ça va s'arrêter de vivre, que ça va être de la roche en fusion. En fait, on découvre que, en tout cas, à 12 km, il y a encore des planctons. Pourquoi il n'y en aurait pas plus loin ?
Ça, c'est 80% de la vie sur Terre est dans le sol très profond, et donc sous forme de microbes, c'est 80%, c'est énorme, je trouve ça hyper intéressant comme chiffre. Ouais. Si vous voulez suivre Christian sur Instagram, je vous le mets, Christian Claude-Dubas Explorer, je vous le mets en cliquable aussi sous la vidéo, si vous voulez le follow, pour suivre toutes tes aventures, toutes tes explorations. Suivez ton institut aussi, je vois que tu as un t-shirt. Juste, qu'est-ce que c'est pour terminer ton institut ?
Alors, c'est le Human Adaptation Institute, et c'est un institut spécialisé dans la capacité humaine d'adaptation, et on mène des tas d'expérimentations, notamment dans la grotte. On vient de finir une autre, on a emmené 20 personnes pendant 3 climats différents pour voir l'impact du climat. Et puis, on partage ces informations au travers de notre site internet, du mien, et puis de livres qu'on écrit. Il y a un super livre sur Deep Time, d'ailleurs, je vous le recommande, Deep Time, 40 jours sous terre.
Ouais, ok, merci beaucoup. Merci à Seb d'avoir préparé l'émission.
Avec plaisir.
On a appris plein de trucs. En plus, c'est vraiment, en réalité, moi, c'est tous les sujets dont on vient de parler, c'est des sujets dont on parle assez régulièrement. Dès qu'on se met à table, on parle de ce genre de trucs assez régulièrement, c'est vrai. Hein,
complètement.
Ça nous a permis de nous instruire, j'espère que ça vous a plu aussi. Merci à toute l'équipe de Warner, d'ailleurs, de nous avoir fait confiance sur le sujet. Allez voir, du coup, Godzilla et Kong, le Nouvel Empire, qui sort mercredi, si vous voulez le voir au ciné. C'est vraiment un gros film pour en prendre plein les yeux. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir préparé aussi l'émission. Merci, Christian.
Merci pour l'invitation.
Je te check de loin. Merci beaucoup. Et à la prochaine émission, tout le monde. Ciao.
Légende Podcast.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.